Bien. Donc, je reprends pas ce qu'il y avait. Ça passe derrière moi. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil. On va reprendre directement là où on s'était arrêté. C'est cette fameuse lutte de Jacob avant de rencontrer son frère Ésaü. Et là, c'est un texte qui est quand même problématique. D'abord, il est très court et il n'est pas logique du tout. On voit Jacob se battre avec un inconnu, milieu de la nuit, il est seul. Visiblement, il n'a pas appelé au secours. Et puis, ni l'un ni l'autre n'a le dessus. Et au bout d'un moment, l'inconnu touche. L'anglais dit bien toucher. Il y a d'autres versions françaises qui disent frapper, mais l'anglais dit toucher. Touche la hanche de Jacob et elle se démet. La conclusion n'est pas logique du tout. Après ça, Jacob, au lieu, je ne sais pas, imaginez ce que vous auriez fait, accroche le gars et lui dit « Je ne te quitterai pas que tu m'aies béni. » Ben, je ne sais pas, si vous battez avec quelqu'un, vous n'allez pas demander sa bénédiction. C'est donc qu'il y a quelque chose que Jacob a compris et qui n'est pas écrit dans le texte. Voilà, c'était ma conclusion. Il y a quelque chose qui s'est passé, qui était clair pour Jacob. La Bible souvent fait des raccourcis, elle pense qu'on comprend. Enfin, l'écrivain, pour celui qui a écrit, on suppose que c'est Moïse, c'était évident. Pour nous, ça l'est moins, donc il faut que nous, on réfléchisse un petit peu. Alors, on va reprendre là. Je pense que si tout le monde a eu le temps de lire le texte, on va pouvoir l'enlever, pas trop vous distraire. Donc, le messager de Dieu, certaines versions disent Dieu, d'autres le messager de Dieu, l'ange de l'Éternel, peu importe. Il se bat avec Jacob d'homme à homme. Et Jacob va se battre de toutes ses forces. Dans un premier temps, il y met toute son énergie, il ne sait pas, absolument pas qui il a en face de lui. Donc il se bat. Il fait nuit, il ne voit pas probablement le visage du gars. Il est seul, il se bat. C'est un gars qui avait énormément de tonus, visiblement une force physique assez inhabituelle. Il faut dire qu'il avait de l'entraînement. Jacob est un fonceur. Rappelez-vous, c'est un débrouillard.
Il avait peut-être fait sport et foi,
oui. C'est un homme indépendant, autosuffisant. S'est débrouillé tout seul. Rappelez-vous, quand il a quitté sa maison et à cause de son frère Ésaü, il est parti seul avec son bâton. Il dit, je suis parti seul. Donc, fallait quand même, pour traverser des zones quand même assez désertiques, il fallait du cran. Courageux, fort et fier. Il faut toujours garder ça à l'esprit. Ceux qui disent que les personnages de la Bible étaient des faibles, je voudrais les voir à la place de certains personnages. Fonceur, débrouillard, indépendant, ce qu'il faut retenir surtout, c'est indépendant et autosuffisant. Je me débrouille à la force du poignet. Et tant que son agresseur va rester dans une lutte humaine, personne n'a le dessus. C'est ça qui est important à retenir. Combien de gens ont résisté à Dieu, un peu comme Jacob, aussi longtemps que le message de Dieu est passé par des humains, des parents, la famille, les amis, les frères et sœurs de l'Église, pasteur, et ont résisté à Dieu parce que le message passait au travers d'un canal humain. Alors bon, oh bah c'est lui qui me le dit, de toute façon, lui, faut voir comment il vit, ou je ne suis pas d'accord avec lui. Vous savez, moi j'ai appris une chose avec les difficultés, c'est peu importe qui me dit la chose, même si c'est quelqu'un qui ne le met pas en pratique. Si je sais que ça vient de Dieu, j'essaie de le faire. Même si la personne ne le met pas en pratique, même si sa façon de vivre est 10 fois pire que la mienne dans ce domaine-là, si je considère que ce qu'il me dit vient de Dieu, je me moque pas mal qui me l'apporte. Parce que je remarque que si ça vient de Dieu, c'est à prendre. Et ce n'est pas le tuyau qui me l'amène qui est important. Que le tuyau soit vert ou jaune, c'est l'eau qui est dedans qui compte. Et je trouve que c'est bien profitable et je vous conseille d'en faire autant. Quand quelqu'un vous donne un conseil et vous savez que ce conseil vient de Dieu, n'essayez pas de dire « Oh oui, mais lui, t'as vu comment il fait » ou bien « Lui, t'as vu comment il vit ». Ça, c'est le problème de Dieu. Il réglera ses comptes, croyez-moi, Dieu sait faire. Bien mieux que nous. Mais nous, c'est toujours bon à prendre ce qu'ils nous disent. Et vous vous en porterez bien si vous suivez ce conseil. Donc souvent, quand ça passe par des humains, les gens résistent au message de Dieu. Mais Dieu, de son côté, il voit la valeur de chaque homme. Vous vous souvenez ce que je dis la semaine dernière? Il voit la valeur de chaque homme. Il a une vision et un espoir pour chacun de nous. Même si vous, vous n'avez plus de vision pour votre vie. Même si vous, vous n'avez plus d'espoir. Lui, il en a encore. Ça, c'est sensationnel. Et il va utiliser souvent, quand il voit qu'il a épuisé tous les moyens humains, il va utiliser une intervention divine, miraculeuse, surnaturelle. Et c'est exactement ce qui va se passer. Ce messager de Dieu voit que dans la lutte humaine, Jacob ne peut pas être vaincu. La force humaine ne suffit pas. Il fallait qu'il soit fort, le gars. Alors, il va toucher l'articulation de sa hanche. Elle se démet. Et Jacob, il n'est pas bête. Il a dû se battre plus d'une fois. Et il se dit, ah, ça, c'est pas normal. Je n'ai pas affaire à un homme. C'est la seule explication que je vois. Quand il a démis sa hanche, Jacob a soudain compris, oh, c'est pas possible, ça, c'est pas humain. Vous imaginez, si c'est simplement le geste de toucher, vous démettre la hanche, ça ne doit pas être facile à démettre une hanche en plus, surtout d'un gars sportif comme Jacob, hein, il devait être bien musclé. Il a tout de suite compris, je n'ai pas affaire à un être humain. Et ça, c'est formidable. Parce qu'en un instant, il comprend que c'est avec Dieu qu'il se bat, au messager de Dieu. Et alors, il a une réaction qu'on comprend maintenant. Il l'attrape, il lui dit, je ne te laisserai pas partir, que tu m'aies béni. Ah, maintenant, en quelque sorte, je sais maintenant qui tu es. Ah, mais tu ne vas pas partir comme ça. Hein? D'accord, tu m'as frappé, mais moi, maintenant, je veux ta bénédiction. Et on sait que Jacob, il aimait la bénédiction de Dieu. Hein? Il s'est battu pour l'avoir. Il a utilisé tous les moyens qu'il ne fallait pas. Il la voulait. Et il va exiger sa bénédiction. Et il avait une qualité. C'était la persévérance. Il a persévéré même chez Laban. Il a persévéré. C'est un homme courageux et persévérant. Et Dieu récompense ça. Et il a exigé sa bénédiction. Je pense qu'il aurait pu très mal réagir, mais dès qu'il sait que Dieu est là, il est complètement déterminé. Est-ce qu'il a vraiment réalisé qu'il est irrémédiablement blessé et handicapé? Ça, on ne sait pas, la Bible ne dit pas. Est-ce qu'il a réalisé qu'il a maintenant terriblement besoin de la bénédiction de Dieu pour poursuivre sa route, sachant qu'il va rencontrer son frère le lendemain, avec 400 bons hommes? Il a toujours eu besoin de la bénédiction de Dieu, mais peut-être la différence maintenant, c'est qu'il sait qu'il en a besoin. Il le sait, et pour cause. Alors, j'avais évoqué la semaine dernière des gens comme Moïse, après le meurtre de l'Égyptien, des années dans le désert, lui aussi, il a vu la hanche démise quelque part, la hanche de son cœur, si on veut dire comme ça. Il avait quand même bien bavé, hein, il avait souffert. Et là, il a pu délivrer le peuple d'Israël. Ça a été une blessure qui a changé sa démarche, hein, de fier prince d'Égypte, c'est devenu un berger, qui était bourré de remords, certainement, d'avoir tué cet Égyptien. David, après l'adultère, le meurtre d'Uri, la mort de son fils, vous lisez le psaume, je crois, c'est 51, et vous voyez que c'est un homme qui a eu la hanche brisée aussi, la hanche démise. On voit qu'il n'est plus le même. Il y a eu une cassure dans sa vie. Joseph, vendu comme esclave, accusé à tort, prisonnier, lui non plus, il ne va plus marcher quand il revient. On voit bien, quand il revient vers son père et vers ses frères, il ne va plus marcher comme le jeune vantard de 17 ans qu'on a connu au début de l'histoire. Il y a eu quelque chose qui a été cassé dans sa vie. Pierre, quand ses yeux ont croisé ceux de Jésus dans le prétoire, après avoir renié Jésus 3 fois avec le coq et chanté, ah, c'était pire que la lutte de Jacob, je pense. Ça devait être horrible. Voir croiser le regard de Jésus, un regard plein d'amour, malgré le reniement. Il y a quelque chose qui a cassé dans le cœur de Pierre, cette autosuffisance. Moi, j'y arriverai, Seigneur, cette grande bouche qui avait toujours le dessus sur tout le monde. Il s'est passé quelque chose dans sa vie. Paul, le pharisien, tombe de cheval, aveuglé par Dieu. Lui non plus, il ne va plus fonctionner comme avant. Vous vous rappelez les premières paroles qui définissent Paul? C'était Paul, respirant la menace et le meurtre, hein, c'est ça C'est plus ça, hein. Après tomber de cheval, aveuglé par la lumière de Dieu, lui aussi, il ne va plus respirer la menace et le meurtre. Son cœur va être transformé. Vous voyez que parfois, il se passe des choses dures, mais qui transforment un être humain. Alors, j'ai eu quelques conversations et je vais juste reprendre un peu ce que j'ai dit la dernière fois, parce que je ne voudrais pas vous faire peur. Il y a certaines personnes qui comprennent très tôt, même dès leur enfance, hein, qu'elles sont faibles et fragiles face au péché, face aux difficultés de la vie, non pas qu'elles soient fragiles psychologiquement, mais simplement elles sont conscientes, quelle que soit leur force, qu'elles ne feront pas le coup tout seules. Il y a des gens qui s'en rendent compte, même des gens très forts. Et ils comprennent que sans Dieu, ils ne feront rien de valable, ils comprennent que les efforts humains et les capacités humaines, si grandes soient-elles, ne serviront pas à grand-chose face aux difficultés de la vie. Celles-là, évidemment, Dieu n'a pas besoin de leur démettre la hanche. Il n'a pas besoin de faire cette lutte avoir le dessus, s'ils le comprennent. S'ils sont déjà dans une attitude d'humilité et d'obéissance, Dieu n'est pas sadique. Hein? Je le dis parce que je sais que pour certains, ça a été un petit peu une crainte. Ouh, voilà, qu'est-ce que Dieu va me faire? Non. Je pense que quand on a compris et qu'on a cette attitude d'humilité et de soumission à Dieu, Dieu n'a pas besoin. C'est un père, il ne faut pas l'oublier. Par contre, il y a beaucoup d'autres gens, et on voit ça plus peut-être parmi les gens que Dieu appelle à être des leaders. Et cela, Dieu, s'il ne voit pas cette attitude suffisante d'humilité et de dépendance, il va les travailler. Et il y a des gens qui, même dans le Seigneur, hein, pensent toujours s'en sortir par leur intelligence. Ils se croient même au-dessus des faiblesses humaines, parce qu'ils aiment le Seigneur, parce qu'ils sont fidèles au Seigneur, j'y arriverai. À cause de leurs dons, les capacités que Dieu leur a données, leur organisation, quelquefois leur manipulation, simplement leur force et leur courage, la force du poignet. Cela, Dieu apprécie leurs qualités. Ce n'est pas que Dieu les apprécie pas, au contraire. Dieu voit et se dit « Waouh, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça ?» Il voit leurs capacités, il voit leur courage et il voit leur persévérance. Et il se dit « Quel dommage qu'ils s'appuient sur leur force. Quel dommage qu'ils s'appuient sur eux-mêmes. Il va falloir changer ça. Tout est bon, mais ça, ça ne va pas. » Et là, Dieu fait tout pour les amener, d'une manière ou d'une autre, pas forcément par la souffrance, mais malheureusement, je crois que c'est souvent le cas, à abandonner leur autosuffisance, à abandonner leur présomption pour laisser Dieu agir au travers d'eux. Donc, quelque part, on est plus en danger de vivre ce que Jacob a vécu quand on est habitué à vivre à la force de son poignet, de ses dons, de ses capacités. Là, on est en danger, effectivement. Et souvent, Dieu fait passer ces gens-là, vous voyez Paul, hein, c'est un bon exemple, il les fait passer par une difficulté qui va leur dire « Maintenant, maintenant, tu rentres dans l'humilité, tu rentres dans la soumission à Dieu, tu rentres dans la dépendance, l'autosuffisance, c'est fini. » Ça demande parfois une chute, une blessure, une souffrance qui démontre, je crois que c'est Jamie qui l'a cité tout à l'heure, que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Parce que vous savez, quand on a beaucoup de capacités, on se dit « je me débrouillerai ». Et ce que Dieu veut qu'on dise, c'est pas « je me débrouillerai », mais « sans toi, je ne pourrai rien faire ». Rien faire qui dure, rien faire de valable. Et même les meilleures capacités, les meilleurs désirs du monde sont insuffisants dans certains cas. Il faut vraiment s'appuyer sur Dieu. Et c'est ça que Dieu a voulu faire avec Jacob. Donc j'espère que maintenant c'est clair, que Dieu ne va pas comme ça à l'aveuglette casser n'importe qui. Mais quand il voit des gens qui ont énormément de ressources, mais qui sont très autosuffisants, qui se dépendent de la force du poignet, et faites attention parce qu'on ne s'en rend pas toujours compte. Donc là, je crois que ça vaut le coup d'écouter les autres. Si les gens vous disent, tu sais, tu as vraiment tendance à dépendre de toi, de ton organisation, de tes capacités, etc. Écoutez ça comme un message, un petit feu clignotant. Attention, attention. Ça peut vous éviter d'autres problèmes. Donc, je voulais vous le dire pour pas quand même que tout le monde ait peur de ce que Dieu va leur faire, parce que Dieu n'est pas comme ça. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on rentre dans une dépendance de Dieu. Pour les petites choses comme pour les grandes. Et ce n'est pas toujours facile. Hein. C'est quelquefois plus facile de dépendre de la force de son poignet. L'inconnu va demander le nom de Jacob. Bien sûr, il le connaît.
Juste un exemple pour illustrer un peu ce que Michel lui a dit. On avait un serviteur de Dieu, je ne nommerai pas son nom. Il est mort maintenant, qui était chez nous. Et sa mère, elle a reçu en lui disant...
Quand tu étais petit à tes yeux.
Quand tu étais petit à tes yeux.
C'est le passage de
Saül.
À Saül, ouais.
Voilà. Et donc, le message, c'était de dire, attention, l'orgueil t'attend si tu continues dans cette voie-là. Et en fait, il n'a pas écouté et sa fin a été tragique. Il est mort assez tôt, récemment. Bon. Il n'a pas voulu écouter. Et sa mère était vraiment inspirée parce qu'il rentrait dans l'orgueil, dans son ministère. Et ça a été tragique à la fin parce qu'il est resté dans cette autosuffisance.
Oui, tout à fait. Et maman était très timide. Ce n'était pas son genre de donner des paroles comme ça. Enfin. Donc, d'une certaine manière, il demande son nom parce que ça oblige Jacob à dire qui il était. C'est-à-dire son état de péché, Jacob le supplanteur. Alors, je sais qu'il y a des tas de traductions pour Jacob, mais il y a quand même un jeu de mots sur Jacob, celui qui prend le talon, c'est-à-dire le supplanteur. Et là, Dieu va changer le nom de Jacob en Israël. C'est-à-dire que son nom ne va pas rappeler son passé. Vous savez, c'est ça qui est formidable. Quand Dieu casse, comme ça, comme il a cassé Paul ou Moïse, etc., pour parler vulgairement, c'est pas pour briser la personne. Au contraire, il change même son nom pour que son passé ne lui pèse plus. Et ça, c'est beau. Voyez, l'idée de Dieu, c'est pas de casser pour le plaisir sadique de vous casser. Quand il casse, que ce soit Paul, soit Moïse, soit Joseph, c'est pour construire quelque chose de fort, de beau, de dépendant de lui, mais quelque chose de formidable. Israël, celui qui lutte avec Dieu, ou bien Dieu règne, ça sera le souvenir de cette nuit terrible, mais il y aura quelque chose de beau. Dieu règne. Tu n'es plus Jacob le supplanteur, mais Dieu règne. Lutteur avec Dieu aussi. Changement de nom, conversion, fallait qu'on en parle aujourd'hui, hein. Je ne reviens pas dessus puisque ça a été fait. À Bethel, il avait reconnu Dieu comme son Dieu. Maintenant, il laisse Dieu le changer. Croyez-moi, ça fait une sacrée différence. Je vois vraiment la différence chez les gens, j'espère que les gens le voient chez nous aussi, entre la différence entre accepter Dieu comme mon Dieu, Seigneur, tu me gardes, tu me bénis, je te remercie, etc. Et puis, avoir cette expérience de conversion où on laisse Dieu nous changer. Vous savez qu'on a tous horreur du changement, à différents degrés. Et surtout, changer soi-même. Changer ses habitudes, changer ses façons de voir. Ça, c'est épouvantable. Et Dieu nous demande de changer nos façons de voir. Soyez transformés par le renouvellement de la pensée. C'est la bonne traduction, hein, de l'intelligence et de la pensée. Et Dieu nous demande de changer nos façons de voir. Et ça, on a horreur. Parce que notre façon de voir, c'est notre famille, c'est notre culture, c'est notre pays. Je ne vais pas changer ma façon de voir les choses et les gens. Et Dieu veut qu'on change de façon de voir. Il veut qu'on adopte la sienne. Et ça, on n'aime pas trop. Et on sent que cette expérience de conversion, ça va dans ce sens, changer. Jacob ne marchera plus comme avant. C'est une parabole aussi, hein, même si c'est une histoire réelle. Mais il ne marchera plus comme avant. Et ce que Dieu veut, quand on l'a rencontré, c'est qu'on ne marche plus comme avant. On ne marche plus de la même façon. On marche dans la dépendance avec Dieu. Jacob va lui demander son nom. Alors là, je ne sais pas trop bien, il y a plusieurs théories. Certains pensent que c'est pour confirmer ce qu'ils savaient déjà. Je dis, bon, je sens que c'est un envoyé de Dieu, dis-moi ton nom. Bon. Gédéon avait fait pareil, donne-moi ton nom. Et vous savez ce qu'il lui avait répondu? Mon nom, mais il est merveilleux. C'était beau, là il n'a rien dit. Bon. Et voilà, l'ange le bénit là. Osée 12:5 fait allusion à ce passage en disant, il pleura et le supplia. Ah, donc c'est peut-être pas aussi facile que Moïse l'a dit. Il semble qu'il s'est accroché à lui pour avoir la bénédiction. Il a pleuré, il a supplié. Et la Bible, comme d'habitude, très très concise. Et il le bénit là. Bon, c'est ça. Alors encore une fois, on peut dire que Jacob l'a emporté. Il a eu le dessus. Il a eu le dessus, mais non pas par la force comme autrefois. Par la manipulation, la ruse, mon droit d'aînesse, pas la bénédiction de papa en me déguisant, etc. Cette fois-ci, il l'a emporté grâce à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. C'était plus ses manipulations, ses ruses, c'était la grâce de Dieu. Parce qu'une grâce, ça veut dire quelque chose qui n'est pas mérité. Franchement, il ne l'avait pas mérité. La grâce de Dieu qui va le transformer, Jacob devient Israël. Toutes les bénédictions de Dieu nous viennent de sa grâce et pas de nos mérites. Et qu'est-ce qu'on a du mal à comprendre ça? Même dans nos prières, parfois. Et je ne suis pas à l'abri non plus. Hein. Oh, Seigneur, bénis cette personne. Tu vois tout ce qu'elle fait pour toi. On n'a pas dit ça tous un jour ou l'autre. Oh là là. Ben oui, tout est grâce. Et Dieu va bénir, même si on ne fait rien pour lui, s'il a décidé de nous bénir, la grâce de Dieu est là. Après, le reste, c'est autre chose. Dieu est parfois obligé d'entraver la force naturelle de ses serviteurs pour qu'ils soient forts dans la foi. C'est un petit peu la conclusion que je ferai à ce passage. Il entrave notre force naturelle pour qu'on soit fort, mais dans la foi, dans la confiance en Dieu. Et vous savez ce qui attend Jacob après cette lutte? Le soleil se lève et puis il y a un petit nuage de poussière à l'horizon, comme dans les westerns. Qu'est-ce qu'arrive? Ésaü avec 400 hommes. C'était des hommes de guerre. Ce n'étaient pas des bergers avec leurs petits moutons, c'était des hommes de guerre, 400. Heureusement qu'ils s'appelaient Israël. Hein. Et là, alors quoi qu'en disent certains commentateurs, moi je ne suis pas d'accord, Jacob est rentré dans l'humilité et la repentance, pas dans la manipulation. Jacob ne peut plus rien faire de plus. Il a fait tout ce qu'il pouvait, tout est entre les mains de Dieu. Maintenant, la seule chose qui va compter, c'est son humilité et sa confiance en Dieu. Mettez-vous à sa place. Il n'a plus rien. Il a des femmes, des enfants qui risquent d'être assassinés sauvagement. Vous ne faisiez pas de cadeaux dans ce temps-là. Dur, hein? Il n'avait pas de guerrier, non, il n'avait aucun soldat. Ça, j'ai bien vérifié quand tu lis bien le texte. Et vous vous souvenez qu'à Manaïm, Dieu lui avait montré, juste après qu'il ait pardonné à Laban, Dieu lui avait montré sa force et lui avait montré l'armée qui le campait autour de lui. Donc, quelque part, au fond de sa tête, il savait que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, comme disait David, je crois. Hein. Il les arrache au danger. Manaïm, il avait vu la troupe d'anges qui le gardait. Et il avait pris un certain nombre de décisions. Alors, certains commentateurs disent « Wow, c'est encore la manipulation ». Non, moi, je crois qu'il a fait ce qu'il fallait faire. Dieu ne nous demande pas de tout laisser au Saint-Esprit. Ce qu'on a à faire, il faut le faire. Et il l'a fait. D'abord, il a envoyé un messager, des messagers vers Ésaü, donc juste après Mahanaïm, avant la lutte, en disant « Ainsi par Jacob, ton serviteur, tiens, tiens, ça a changé, c'est plus ton frangin, etc., à qui tu as vendu ton droit d'aînesse, j'ai séjourné en immigré chez Laban, je m'y suis attardé jusqu'à présent, j'ai des bœufs, des ânes, du petit bétail, des serviteurs et des servantes, je te le fais dire, mon Seigneur, pour trouver grâce à tes yeux. » Au XXIe siècle, nous, on ne comprend rien. Qu'est-ce que ça peut lui faire à Ésaü, le nombre de bœufs, d'ânes, etc. Mais si, voyons, réfléchissez, c'était l'argent de l'époque, il lui dit ni plus ni moins, j'ai pas besoin, je viens pas te pomper quelque chose comme j'ai fait les deux autres fois, je viens pas te réclamer quelque chose, je suis riche, Dieu m'a béni, et Dieu m'a béni, ça veut dire si Dieu m'a béni, tu peux peut-être ne pas me taper dessus, pour trouver grâce à tes yeux, ça veut dire ce que ça veut dire hein, dans ce langage, pour te demander pardon, pour trouver grâce à tes yeux, grâce c'est quoi, c'est pas mérité, je mérite pas que tu me fasses grâce Ésaü. Mais voilà, je suis riche maintenant, je ne te demande plus rien. Je veux juste trouver grâce à tes yeux. Tout ce que je te demande, c'est ton pardon. Hein, c'est clair. Alors vous voyez, quand on lit le texte avec nos yeux du 21e siècle, on est vraiment... Ouais. Donc il faut réfléchir. Je veux que tu saches, je cherche ta grâce et ton pardon. Réponse du messager. Ton frère marche à ta rencontre avec 400 hommes. Apparemment, ça n'a pas marché. Et là, il se dit, mais quoi faire? Alors il partage son bétail et ses gens en deux groupes. Pour en sauver un, si possible. Pendant qu'il y en a un qui est attaqué, peut-être l'autre pourra se sauver. Bon, c'est logique. Il n'y a pas de mal à ça. Et il prie. Et vous vous souvenez cette merveilleuse prière où il reconnaît sa petitesse, où il loue Dieu, il le remercie. On l'a chanté ce matin, reconnaissant pour ce que Dieu a fait pour lui. On le trouve bien différent de ce qu'on voyait. Et puis, Seigneur, sauve-moi de la colère de mon frère. Ensuite, il décide de préparer des cadeaux. Alors, je me suis amusée à faire le compte. Donc, premier cadeau, un messager avec 200 chèvres et 20 boucs. Quelques centaines de mètres plus loin, un autre messager avec 200 brebis et 20 béliers. Quelques mètres plus loin, un autre messager avec 30 chamelles et les petits. Quelques mètres plus loin encore, 40 vaches et 10 taureaux, toujours avec un messager. Et puis encore après, derrière, un autre messager avec 20 ânes et 10 ânes. Il en met 5 couches pour se dire « ça va peut-être marcher ». Il n'est pas bête, il réfléchit, il fait travailler son cerveau. Bah, Dieu lui en a donné un, autant qu'il s'en serve. Et par contre, le message, lui, il ne vient pas de son cerveau. Le message, il vient de son cœur. « Ceci vient de Jacob, ton serviteur. C'est un présent qu'il t'envoie et lui-même nous suit. » Et il se dit « Je l'apaiserai par ce présent. Peut-être m'accueillera-t-il favorablement. » Il n'est plus dans la présomption. Il n'est plus dans l'orgueil. « Peut-être m'accueillera-t-il favorablement. » Ça veut dire qu'il est conscient qu'il ne le mérite pas. Après ce qu'il a fait. Aussitôt après la lutte, donc je reviens là où on en était tout à l'heure, le lutte avec le messager de Dieu, il voit arriver Ésaü avec ses 400 hommes. Et là, il va marcher devant, alors il met derrière lui les servantes avec les enfants, puis Léa et les enfants, puis Rachel et Joseph. On comprend pourquoi. Il se met devant et il va se prosterner 7 fois. Alors les livres d'histoire nous disent que c'était beaucoup trop pour l'habitude, pour la coutume. Ça voulait dire quelque chose. 7 fois, chiffre de la perfection, c'est-à-dire je m'humilie totalement devant toi. Il y a quelques... Au XIVe siècle avant Jésus-Christ, on voit devant le Pharaon certains qui venaient payer leurs impôts et qui s'inclinaient 7 fois devant le Pharaon. Mais c'est quand même beaucoup. C'est son frère quand même. Hein. Donc vraiment, humilité totale. Il se prosterne 7 fois. Et c'est merveilleux, visiblement, après cette lutte, il s'est passé quelque chose. C'est le suspense. Il a Ésaü. Vous imaginez la scène, Ésaü avec ses 400 soldats et lui avec ses femmes, ses enfants et ses petites bêtes. Et là, il y a le silence. Hein, on entend la... les tambours. Qu'est-ce qui va se passer? Ésaü court et l'embrasse et ils pleurent tous les deux. Dieu a agi. Parce qu'il n'est pas venu avec 400 soldats pour l'embrasser. Hein, il n'avait pas besoin de ça. Je crois qu'au départ, il n'était pas du tout dans cette dynamique. Et je ne pense pas que ce soit seulement les cadeaux qui agissent. C'est la nuit avec le messager où Dieu a pu agir chez Ésaü. C'est évident. Et la première chose qu'il va demander, c'est qui sont ces gens qui sont avec toi, évidemment. C'est les enfants que Dieu, dans sa grâce, m'a donnés. Et là, le mot grâce va revenir. Qu'est-ce que cette troupe que j'ai rencontrée ? Eh bien, il lui dit ouvertement, c'est pour trouver grâce à tes yeux. Autrement dit, c'est pour te demander pardon. Je suis dans l'abondance, Dieu m'a béni. C'est ce que dit Ésaü, je n'ai pas besoin de tes cadeaux. Et là, il y a un petit dialogue qu'on a peut-être un peu de mal à comprendre. Il lui dit, mais non, je n'ai pas besoin, je suis dans l'abondance. Donc, ça répond bien à la prophétie que Isaac avait donnée à son fils. Hein. Tu seras quand même, Dieu te bénira quand même, mais ce sera difficile. Donc, il est dans l'abondance. Mais pour Jacob, il faut que son frère accepte. Pourquoi ? Parce que c'est la preuve qu'il a pardonné. Il faut qu'il accepte son cadeau. Alors, il va insister. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte mon présent. J'ai paru en ta présence comme on paraît en la présence de Dieu. Alors là, il y a des commentateurs qui sont furieux. Comment, quelle flatterie ! Mais non ! Il paraît dans la présence de son frère comme un homme se présente à Dieu, c'est-à-dire dans l'humilité et la repentance. Il ne dit pas que son frère est Dieu. Il dit simplement, je suis devant toi comme on est devant Dieu, dans l'humilité et la repentance. C'était clair à l'époque. Et tu m'as accueilli favorablement, donc comme Dieu. Accepte mon cadeau, je te prie, il t'a été offert puisque Dieu m'a fait grâce. Encore une fois. Dieu, lui, m'a pardonné. Dieu m'a fait grâce. Alors toi, accepte. Si Dieu m'a pardonné, toi, tu peux aussi me pardonner. C'est ça que ça veut dire. Humilité, repentance, vous savez ce que dit la Bible, un cœur contrit et humilié. Dieu m'a pardonné, je suis devant toi pour que tu me pardonnes aussi. Et c'est un miracle, Ésaü accepte, il fait grâce à Jacob. C'est vraiment un miracle. Miracle de l'action de Dieu dans le cœur d'Ésaü. Et miracle, moi je trouve, dans le changement d'attitude de Jacob. Il a fait ce qu'il fallait, mais il s'est attendu à Dieu. Vous voyez, avant, il ne faisait que ce qu'il fallait, et puis il comptait sur sa force. Cette fois-ci, il a fait ce qu'il fallait, mais il s'est attendu à Dieu. Et souvent, c'est quand notre cœur change à l'égard des gens qui nous sont hostiles, que Dieu peut changer le leur. Et ça, vous allez le vérifier toujours dans votre vie. Combien de fois, je ne sais pas comment ça marche, hein, mais Dieu agit dans le cœur des gens qui nous sont hostiles quand nous, on change d'attitude à leur égard. Ça marche comme ça. Si notre cœur change, leur cœur va changer. Ça prend quelquefois un petit peu de temps. Mais ça, je l'ai vécu plusieurs fois. Des gens qui sont franchement hostiles, si notre cœur change à leur égard, Dieu va changer leur cœur. Ça, je ne sais pas comment ça marche, mais je sais que ça marche. Le fait de demander pardon, de trouver grâce et de réparer va aussi permettre à Dieu d'agir. Parce qu'il répare en donnant ses cadeaux aussi. Tout au moins, il essaie de réparer. On voit aussi donc chez Jacob, respect, humilité, repentance, courage, ce qui passe le premier, hein, il ne met pas les femmes devant en se disant ça va l'attendrir, il ne se sert pas de bouclier humain, comme oui, bon, voilà. Et générosité. Avant, il avait pris le droit d'aînesse, il avait pris la bénédiction du père, il avait pris l'amour de sa mère, puis son père, son frère, bah, tant pis, et là, il donne. Il est complètement dans une autre dynamique. Après le départ d'Ésaü, donc vous souvenez, Jacob avait pardonné à Laban, Ésaü pardonne à Jacob. Après le départ d'Ésaü, Jacob s'installe près de Sichem et construit un autel. Et là, c'est formidable, c'est plus le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est El Eloé Israël. Il construit un autel au Dieu d'Israël, au Dieu de Jacob. Donc ça y est, maintenant c'est son Dieu. Vous voyez la démarche par rapport aux toutes premières fois, Dieu d'Abraham et d'Isaac. Il ne disait pas mon Dieu, hein, oh là là. Maintenant c'est El Eloé Israël, éternel, le Dieu d'Israël. Et puis il prend son nom, son nouveau nom. Ce n'est pas Dieu de Jacob, c'est d'Israël. Un Dieu personnel, ça c'est formidable. Et on arrive sur un épisode extrêmement peu glorieux de la vie de Jacob. Dina, la fille de Léa, il s'installe autour de Sichem, hein, avec tout son campement. Et Dina, la fille de Léa, sort pour rencontrer les filles du pays. On lui avait pourtant dit qu'il ne fallait pas, elle devait avoir 15 ou 16 ans. Et elle est kidnappée par le prince du lieu, qui la prend visiblement dans son harem, etc. Le roi a une bonne idée. Le roi de Sichem dit, ben voilà, il veut absolument cette fille, il veut l'épouser, vous me la donnez, pas de problème, et puis moi, je vous accueille. Je vous accueille, on fait une alliance par le mariage, alliance pour du commerce, pour la propriété foncière. Il fait une offre qui est extrêmement tentante. Après tout, bon, voilà, il l'a prise. Hein. Donc maintenant, vous pouvez bénéficier de tous les pâturages autour de Sichem. On peut devenir un seul peuple. Et puis, il a un double langage, parce qu'à Jacob, il dit ça, puis aux gens de la ville, il dit, leurs biens ne seront-ils pas à nous ? Voilà. Il faut dire qu'il était immensément riche. C'était vraiment un émir, là, le petit père Jacob, là, à ce stade-là. Et il a ce double langage. Hein, aux gens de la ville, il dit, allez, on accepte la circoncision. Il nous demande la circoncision. Bon, allez, on l'accepte, parce que ce sont, on sera un même peuple. Et puis à Jacob, il dit, voilà, tu pourras bénéficier de tous les pâturages et on fera un seul peuple. On vous donnera nos filles à marier et vous épouserez les nôtres. Et vous vous souvenez, quelqu'un d'autre qui a fait ça, mais d'une autre manière. C'était Balaam. Et l'Apocalypse le cite comme étant un personnage catastrophique. Parce que c'est lui qui avait conseillé. On n'arrivait pas à maudire Israël, le peuple d'Israël. Ah, pas moyen. Balaam, il essayait pourtant. Hein. Il essayait, il ouvrait la bouche et pan, il sortait avec des bénédictions. 3 fois de suite, le roi Balak était complètement en colère. Et il lui a dit, fiche le camp. Il dit, attends, j'ai quand même un conseil à te donner. Ah, tu envoies les filles dans le peuple et tu les auras. Tu auras la victoire. Parce qu'avec les mariages, l'idolâtrie rentrait sans problème, parce que souvent, c'est la femme qui transmet, il faut reconnaître, le plus gros de l'instruction religieuse aux enfants. Hein. Donc, pas de problème. Tu envoies les filles et ça sera bon. Assimiler le peuple, l'affaiblir en favorisant les mariages avec les femmes païennes. Et on voit la même chose aujourd'hui, combien de chrétiens ont abandonné la foi en faisant des compromis dans les mariages. Et du coup, les enfants aussi ont été perdus pour le Seigneur. Je pense que la famille de Hans pourrait en témoigner encore plus que moi sur 4 générations, combien on a vu de jeunes qui servaient le Seigneur et qui se sont mariés avec des non-chrétiens en se disant « moi, je l'amènerai au Seigneur ». Et puis, voilà. Et maintenant, toute l'évangélisation est à refaire. Ça aussi, je trouve ça lamentable parce qu'il faut recommencer à évangéliser des gens qui devraient être dans l'Église depuis 3 générations. C'est un bon moyen de casser le peuple de Dieu. Un bon moyen. Et le diable l'a toujours utilisé, il l'utilise encore. Alors, c'était le premier piège pour le peuple d'Israël, le premier grand piège. C'était ce petit peuple hein, qui était constitué de la famille de Jacob, des serviteurs et tout. Ça faisait déjà une belle grosse tribu. À peine inné, on peut dire, c'est carrément un embryon de peuple. Hop, il va être cassé dans l'œuf. Jacob ne réagit pas et là, il a tort. Jacob ne prend pas les choses en main. Il ne prend pas son rôle de patriarche. Il attend que ses fils rentrent des champs. Et il a tort. Parce que les deux fils qui vont prendre les choses en main, c'est Siméon et Lévi, et ce sont des sauvages. Ils vont agir extrêmement mal, ils vont profiter du temps de circoncision pour massacrer toute la population, kidnapper les femmes et les enfants, et Jacob est horrifié. Jacob ne semble pas avoir assez d'autorité sur ses fils, et c'est pas normal. Là, il y a un problème. Il va laisser ses fils gérer la situation sans aucune sagesse, ils vont tromper et massacrer les gens, c'est horrible. Et Jacob va leur reprocher simplement d'attirer le malheur sur lui et de le rendre odieux aux Cananéens. Par contre, au moment de la bénédiction, il va voir qu'il s'en souvient et il leur retire le droit d'aînesse. Si vous avez remarqué, c'est Judas qui va avoir la tribu royale. Le droit d'aînesse est retiré aux 2 aînés parce qu'ils ont trop mal agi. Intéressant. Bon, il a des conséquences à ce genre de comportement. Retour à Bethel. Et là, Dieu demande... Les interactions avec Dieu se font quand même plus nombreuses. Il demande à Jacob de construire un autel. Et je trouve que Jacob a énormément progressé en sa connaissance de Dieu parce qu'il va demander à ces gens « Supprimez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. » Oh ! Où est-ce qu'il est allé chercher ça ? Il a écouté Dieu. Alors je pense qu'ils avaient récupéré les femmes et les enfants de Sichem, donc je pense qu'il devait y avoir pas mal de dieux étrangers qui étaient arrivés aussi. Et vous vous souvenez qui avait planqué les dieux étrangers ? Rachel, les dieux étrangers de Laban. Donc, Jacob comprend à cette période que pour être fidèle à Dieu, on ne peut pas garder d'idole. Quel message ! Parce qu'il fallait le comprendre, lui, il n'avait pas de livre, hein, il n'avait rien. C'était vraiment son dialogue avec Dieu. Il a compris que les idoles des peuples qui les entourent, et même les idoles de son beau-père, devaient être supprimées. C'est quand même formidable. Il y avait les dieux de Laban, le butin de Sichem et les boucles d'oreilles. Alors là, il y a pas mal de gens qui disent wow, « les boucles d'oreilles, c'est pas possible ». Ben oui, historiquement, les archéologues ont trouvé des textes. Les boucles d'oreilles, ça donne un mot qu'on connaît maintenant sous le nom de talisman. C'était des protections contre le mal, les malédictions qu'on disait sur vous. Donc en portant ces boucles d'oreilles, ils avaient une sorte de protection sur le mal qui était dit sur vous, sur les paroles mauvaises. Voilà. Donc c'était pas le bijou qui était condamné, c'était... la protection, le talisman que ça représentait. Je ne savais pas, j'ai appris ça. Voilà pourquoi les boucles d'oreilles ont fait partie des choses qu'on a enterrées. Et aussitôt après avoir enterré toutes ces idoles, La conséquence immédiate, la terreur de Dieu se répandit sur les villes et on ne poursuivit pas les fils de Jacob. Pourquoi ? Parce qu'ils ont abandonné l'idolâtrie. Dès qu'on abandonne ses idoles, la grâce de Dieu, la protection de Dieu est là. Quand on garde des idoles dans son cœur, on a une porte ouverte à nos ennemis. C'est comme si on laissait les fenêtres ouvertes un jour d'orage. Ce n'est pas Dieu qui va mouiller vos planchers. Hein ? Si vous laissez vos fenêtres ouvertes un jour d'orage, vos planchers seront mouillés. Voilà. Et c'est exactement ça avec les idoles. Vous gardez des idoles dans votre vie. Ce n'est pas Dieu qui vous court derrière avec un bâton. Vous laissez vos fenêtres ouvertes. La conséquence inévitable, le mal peut rentrer de toutes sortes de manières. Donc attention à nos idoles. Je crois que là, on peut se sonder. On en a toujours un petit peu dans un coin. C'est quelquefois des choses tout à fait légitimes, mais qui sont devenues des idoles. Ça peut être les enfants, ça peut être le conjoint, etc. Il faut faire attention. Donc le cœur entier à Dieu entraîne sa protection. Rappelez-vous ce que Jésus pouvait dire, « Il n'a rien en moi ». Ah, c'est le seul qui pouvait dire ça. « Il n'a rien en moi ». Cette efficacité, cette puissance de Jésus, parce que le diable n'avait rien en lui. À Bethel, Dieu reparle à Jacob, il lui renouvelle ses promesses, vous les connaissez, je ne les redonne pas. Rachel va mourir en donnant naissance à Benjamin. Et la vie continue, mais là, Jacob va rentrer dans une grande crise, j'allais dire la dernière, mais oui, je crois que c'est plus ou moins la dernière crise de sa vie. Hein. Il y a eu Ésaü, il y a eu Laban, et maintenant, la grande crise, c'est à cause du favoritisme envers Joseph. Il lui donne cette fameuse tunique. Alors, j'ai appris que, en fait, les tuniques à manches longues n'étaient offertes qu'aux gens qui ne travaillaient pas, c'est-à-dire aux princes, et le prince héritier en particulier. Donc, ça voulait dire quelque part, c'est lui l'héritier, c'est lui qui a le droit d'aînesse. C'était un peu le message de la tunique. Ce n'était pas seulement la couleur de la tunique qui titillait les frères. Hein. C'est la signification derrière. Le favoritisme va créer une nouvelle crise qui va plonger Jacob dans une sorte de dépression pendant plusieurs années. Et il a pu régler les choses pour Ésaü, il a pu les régler pour Laban, mais avec Joseph, il n'a pas été bon, le petit Jacob. Pas bon du tout. Et quand les frères de Joseph vont ramener la tunique remplie de sang, Jacob va rentrer dans une phase de dépression, je dirais. Enfin, c'est mon interprétation. Hein. Et pourquoi ? Pourquoi il va rentrer dans une phase de dépression ? Parce qu'il va croire un mensonge. Et il ne va même pas vérifier. Il aurait pu, le téléphone arabe, ça fonctionnait très bien. Il aurait pu vérifier. Et je suis sûre qu'il avait des doutes parce qu'il ne faisait pas confiance à Siméon et Lévi. Depuis un bon moment, il les avait en travers. Donc, il aurait pu deviner. Il aurait pu dire, on va voir si c'est vrai. Et vous savez, il y a ce texte qui dit... il dit, c'est dans le deuil que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Puis, quelques versets plus loin, or, les Madianites avaient vendu Joseph. La vérité, elle était là. Il était vendu. Et lui, il est resté sur le mensonge qu'on lui a donné. Ah, s'il a vu un tout petit peu de discernement, il aurait pu vérifier. Il aurait pu vérifier. Mais il a cru ce mensonge comme ça. Et nous aussi, dans nos vies, faisons attention s'il y a des moments de dépression, de tristesse. Est-ce que ça ne vient pas d'un mensonge auquel on croit ? Là, je n'invente rien. C'est ce que c'est la prédication de Dan Snead de cet été. Si vous ne l'avez pas entendu, écoutez-la. Les paroles négatives, les choses qu'on a crues et qui ont cassé notre vie, qui nous plongent dans la dépression. Ça, c'est grave. Et Jacob est rentré là-dedans, la tête la première, pendant une période de presque 15 ans. Qu'est-ce qui se passe quand on est déprimé ? On est centré sur soi. Alors là, écoutez un peu les réflexions de notre petit Jacob. Alors là, c'est flagrant. Il dit, si c'est comme ça, on réussira à pas mourir, on va juste survivre. À cause de vous, je vais perdre tous mes enfants. C'est sur moi que tout cela retombe. Il est complètement centré sur lui, complètement. C'est sur moi que tout va retomber. Il vit dans cet égocentrisme parce qu'il a cru un mensonge. Et alors, verset 38, c'est dans le chagrin que vous ferez descendre mes cheveux blancs au séjour des morts. Pourquoi avez-vous mal agi à mon égard et les autres ? À mon égard, en disant à cet homme que vous aviez encore un frère. Vous connaissez l'histoire, hein, je ne vous la raconte pas. Il est centré sur lui, il est dans la déprime parce qu'il a cru un mensonge. Il n'a pas vérifié, il n'a pas cherché. Il aurait pu, il savait que Siméon et Lévi étaient des drôles de zigotos. Ils vont changer, enfin surtout Lévi. Et puis, on le voit se ressaisir au bout simplement de cette période de 15 ans, grâce à Judas. Ah, Judas commence à avoir son rôle, là. Hein. Judas qui lui dit, en quelque sorte, je vais le dire en langage moderne, « Mais enfin, papa, écoute, dramatise pas, on va aller voir cet homme, et puis on va lui apporter des cadeaux, et puis, écoute, il n'y a pas de raison, hein, on te ramènera Benjamin, il n'y a pas de souci. Vous lirez le vrai texte, ça, c'était mon interprétation. Et du coup, il reprend un peu courage. Ah, le ministère d'encouragement. Judas a eu un ministère d'encouragement auprès de son père, parce qu'on voit qu'il change d'attitude et il prie. Oh, on ne l'avait pas entendu prier pendant 15 ans. Que le Dieu puissant vous accorde la compassion de cet homme et qu'il laisse revenir avec vous votre frère et Benjamin. Ça fait longtemps qu'il aurait dû prier comme ça. Quant à moi, alors il reste encore un petit chouïa de dépression. Hein. Quant à moi, si je dois perdre mes enfants, je les perdrai. Bon, mais il a quand même repris un petit peu de poil de la bête. Et puis la Bible dit, son cœur resta insensible parce qu'il ne les croyait pas. Eh bien, il aurait mieux fait de ne pas les croire quand il s'agissait de Joseph. Hein. Et ils lui dirent, je ne sais plus quoi, et puis il voit les chariots que Joseph avait envoyés. Alors un chariot égyptien, ça ne trompait pas. Hein. C'est comme une jaguar au lieu d'une de chevaux. C'était pour un berger, un chariot égyptien, c'était ça. Hein. C'était les chariots en plus du pharaon. Et on a découvert, hein, ils étaient beaux. Hein. Les roues étaient cerclées d'or parfois, les rayons des roues étaient recouverts d'or. Enfin, là, il ne pouvait pas se tromper, ce n'était pas du blabla. Il a vu les chariots et la Bible dit, il vit les chariots. C'est alors que Jacob, leur père, reprit vie. C'est comme une résurrection. Pourquoi il a repris vie? Parce qu'il a cru à la vérité. Il a enfin la vérité. C'est une bonne parabole, cette histoire de Jacob. Hein. Quand on croit à la vérité, on reprend vie. La dépression, c'est fini. Et vous allez voir, Jacob, il change complètement. Et il commence déjà à dire que je le vois avant de mourir. Oh, il est là, il n'est plus prêt à mourir tout de suite. Il faut qu'il voit son fils avant. Alors qu'avant, il était toujours là à parler de ses cheveux blancs qui descendent dans la tombe. Il va même offrir des sacrifices à Dieu. Et Dieu va lui reparler après un long silence. Il lui dit, n'aie pas peur, je ferai de toi une grande nation. Je descendrai avec toi et je t'en ferai remonter. Vous n'allez pas rester en Égypte. Et Joseph te fermera les yeux. Il est gentil parce qu'il a tellement parlé de sa mort qu'il dit, bon écoute, hein, t'inquiète pas, c'est Joseph qui te fermera les yeux, puis le temps que t'en parles, il va vivre encore une quinzaine d'années. Il envoie Judas en éclaireur, là encore on commence à voir le rôle de Judas qui monte, hein, tribu royale, tribu de Jésus, hein. Et puis il y a une rencontre avec Joseph extrêmement émotionnelle, tout le monde pleure, vous imaginez, Moyen-Orient, on ne retient pas ses sentiments. Et Jacob va être présenté au pharaon. Alors là, c'est plus le même Jacob. Il est sorti de sa crise après avoir cru à son mensonge. Il a vu la vérité et il va bénir le pharaon. Ah, lui, le petit berger, il va bénir le pharaon. Fallait le faire. Il va vivre 17 ans en Égypte. Voilà le chiffre. Il meurt à 147 ans. Et avant de mourir, il va appeler Joseph et il va bénir les enfants. Curieusement, il va adopter ceux de Joseph comme héritiers. Et ils auront une double tribu, Éphraïm et Manassé. Et là, on va voir Jacob bénir tous ses petits-enfants et ses enfants avant de partir. Lisez les textes des bénédictions, c'est remarquable. Remarquable. Il n'a pas oublié l'histoire de Simon et Lévi. Il va obéir à Dieu au lieu de respecter la tradition. Encore une fois, on a un problème avec les aînés cadets. Hein, Jacob lui présente ses fils de façon à ce qu'il puisse les bénir comme ça. Et lui, il les bénit comme ça. La main droite sur le petit, la main gauche sur l'aîné. Il avait compris quelque chose dans sa vie, que ce n'est pas les traditions humaines qui comptent, c'est la parole de Dieu. Et on va voir tout le temps Dieu dans la Bible qui laisse tomber un peu les traditions humaines. Il ne s'agit pas de laisser tomber la morale, les choses droites et honnêtes, mais les traditions qui n'ont pas forcément rime ni raison. L'aîné, pourquoi il aurait plus, etc. Et on voit souvent Dieu remuer les choses. Et là, encore une fois, et là, c'est lui qui est sensible à Dieu. Et l'inverse. Et il a des paroles extrêmement positives. « Je vais mourir, mais Dieu sera avec vous. Il vous ramènera au pays de vos pères. » Et j'aime beaucoup ce verset. Ah, ça, il est bien. « Il les bénit chacun d'une bénédiction particulière. » Est-ce que vous croyez que chacun a une bénédiction particulière? C'est-à-dire, quand on bénit toute l'Église, quand Dieu bénit toute l'Église, il ne bénit pas toute l'Église. Il bénit chacun en particulier. Ça, c'est fantastique. Dieu aime chacun en particulier, il a un plan pour chacun en particulier. Et même déjà, un texte qui a 4000 ans, il les bénit chacun d'une bénédiction particulière. Il va demander à être enseveli avec Abraham, etc. Et on va juste conclure. Parce que je sais que... Merci. On va juste conclure. En gros, Jacob, c'est un adorateur qui a progressé tout au long de sa vie. Il a commencé à adorer très faiblement. Oui, si tu veux bien être mon Dieu. Hein? Et puis après, non seulement il va adorer, mais il va entraîner derrière lui ses enfants et ses petits-enfants à adorer Dieu. Je crois que vous avez retenu que c'était un homme comme nous. Un homme comme nous, bien que ça pourrait être un patriarche, dites donc, hein, il n'est pas mieux que nous à certains égards. Un homme qui a été à l'école de Dieu. Et nous aussi, on est à l'école de Dieu. Et on en fera ce qu'on voudra. Vous savez, à l'école, on ne sort pas tous premier, mais on sort tous en ayant appris quelque chose, normalement, si on veut bien. Après, ça dépend de nous. Hein. Un homme à l'école de Dieu, un homme qui s'est laissé transformer, un homme qui a eu des problèmes familiaux de toutes sortes, avec ses parents, avec son frère, avec sa belle famille et avec ses enfants. Ah, les problèmes familiaux, il en a eu comme ça. Il est sorti de sa dépression quand il a cru à la vérité. Et puis, il va vivre 17 ans d'une vie absolument super en Égypte, pourri gâté par son fils Joseph, dans des pâturages. J'ai regardé, hein, géographiquement, les pâturages de Goshen étaient fantastiques. Le bonheur, la prospérité, le peuple s'est multiplié. Il a été effectivement enterré, ils l'ont emmené. Et au moment de son enterrement, imaginez qu'il a été embaumé comme une momie égyptienne. Ah, le pauvre. Mais bon, c'est ce que Joseph avait demandé. Il a demandé à son médecin du Pharaon, hein, d'embaumer le corps. Ça a pris 40 jours, pauvre Jacob. Mais bon, il a été embaumé. Il a été bien traité. Et le cortège funéraire était tellement important que le nom de la ville où ils sont passés disait, je ne sais plus comment, qu'est-ce qu'il disait, je n'ai plus, le texte sous les yeux, disait que ça devait être un personnage extrêmement important parce qu'il y avait un tel monde qui suivait le cortège funéraire. La cour égyptienne est venue, 40 jours de deuil, ils ont pleuré 70 jours et les Cananéens ont été sidérés. Ils ont dit, ça devait être un grand chagrin pour le peuple d'Égypte que la perte de Jacob. Ah, tout un itinéraire. Seigneur, merci pour Jacob, merci parce qu'on a réussi à terminer. Et merci Seigneur parce qu'il nous a appris des tas de choses. Aide-nous Seigneur à rester dans la vérité pour ne pas déprimer, à croire la vérité qui libère, parce que c'est ta vérité qui affranchit. Nous voulons être dans ta vérité Seigneur, ta vérité sur nous-mêmes, la vérité sur toi, afin de vivre dans la paix, afin de vivre dans ton bonheur, ce que tu as préparé pour nous. Merci Seigneur pour ces 17 années de bonheur que Jacob a connu quand il est rentré dans ta vérité. Il a vu ta vérité. Seigneur, aide-nous à voir ta vérité pour vivre vraiment en communion avec toi, pas dans la dépression, mais dans la paix et dans le bonheur avec toi. Amen.